14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je n'ai aucune compétence pour savoir qui et comment a interrompu la vie de Catel. Par contre, comme voilà, je pense que pour sa famille, il y a un réel besoin de savoir. Et je me dis, puisqu'il y a eu réouverture, l'espoir reste permis qu'un jour ils aient des réponses.
Bonjour. Qui a tué Catel Berrehouk, une jeune étudiante de 19 ans retrouvée étranglée sur le lit de ses parents à Auvers-sur-Oise en 1995? Est-ce cet homme arrêté 22 ans après le crime et qui fait aujourd'hui figure d'unique suspect et que les proches de la victime souhaitent voir juger? Un homme rattrapé au terme d'un spectaculaire rebondissement par son ADN découvert sous les ongles de la jeune fille? Cet individu qui a aujourd'hui dépassé la cinquantaine et qui menait une vie rangée et tranquille clame son innocence. Rarement, enquête n'aura été aussi compliquée, hésitante, un labyrinthe pour les gendarmes qui, des années durant, vont suivre de multiples pistes, même les plus fantaisistes. Ces quelques traces génétiques suffisent-elles à faire de ce suspect un coupable? L'ADN peut-il se tromper? Pourquoi une si longue attente alors que les enquêteurs sont persuadés d'avoir touché au but? Les certitudes ou les doutes vont-ils l'emporter? Question que nous allons poser à nos invités. Émission en partenariat aujourd'hui avec le journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Catel Berrehouk. Au printemps 1995, cette brillante étudiante âgée de 19 ans est retrouvée assassinée dans la maison familiale. Un drame qui sème la consternation dans une petite ville du Val d'Oise. Ce jeudi 11 mai 1995, peu après 17h, le fils cadet de la famille Berrehouk rentre chez lui après les cours. Le pavillon familial, situé dans une résidence, le Clos des Cèdres à Auvers-sur-Oise, est silencieux. Aucun désordre ne règne dans la demeure. Le garçon appelle sa sœur, Catel, qui doit normalement se trouver à l'étage, mais il n'obtient aucune réponse. Il monte l'escalier, constate que Catel s'est fait couler un bain, l'eau est encore tiède. En passant devant la chambre des parents, il distingue par la porte entrebâillée sur le lit la jambe de sa sœur. Il pense qu'elle a dû s'endormir. Il redescend, regarde la télé, puis, au bout d'un moment, remonte à l'étage. Sa sœur est toujours allongée sur le lit, en grande partie dénudée, son legging autour du cou, elle ne respire plus. Elle est morte. Les secours sont prévenus. Au regard de la disposition du corps et des stries violacées au niveau de la gorge, les gendarmes songent tout de suite à un geste criminel. Le légiste confirme qu'il y a bien eu strangulation à l'aide du legging. Il ne peut pas confirmer en l'état que la jeune femme a été agressée sexuellement ou même violée, même si des doutes sont permis. Du lubrifiant, identique à celui d'un préservatif, va être relevé lors de l'examen du corps. La mort est intervenue entre 6 à 12 heures avant la découverte, soit en fin de matinée, aux alentours de midi. La petite cité d'Auvers-sur-Oise, réputée pour sa tranquillité, est sous le choc. Tout le monde ici connaît les Berrehouk. Le père est l'un des adjoints du maire, Jean-Pierre Becquet. Catel a effectué toute sa scolarité dans la cité. Elle y compte ses meilleurs amis, parmi lesquels Laure et Marie, complètement dévastée par la nouvelle. La jeune femme, brillante, était inscrite à Nipocagne, à Paris. Elle avait toutefois mis sa scolarité entre parenthèses, car elle traversait une mauvaise passe, en proie à un profond mal-être. Catel alternait les phases d'anorexie et de boulimie. Sa copine, Marie, a longtemps attribué ces changements à un choc psychologique qu'elle avait subi quelques mois auparavant. Catel lui avait écrit une lettre pour lui dire que son petit ami Rudy venait de se tuer dans un accident de voiture, mort écrasé contre un camion sur une petite route de campagne. « Une enclume m'est tombée sur la tête », écrivait la jeune femme. « Un voile noir s'est abattu devant mes yeux. » Les gendarmes vérifient cette histoire. Rudy existe, mais il n'a jamais eu d'accident. Il avait rompu avec Catel et est parti vivre à Marseille. Un mensonge qui n'explique pas le drame, mais fait naître le doute sur la personnalité de la victime. Dissimulait-elle des secrets? Malgré leurs interrogations sur la possible détresse psychologique de Catel Berrehouk, les gendarmes excluent le suicide. C'est bien un crime. La victime semble même s'être défendue sous un ongle de sa main droite. La trace d'un ADN masculin est détectée, ADN inconnu. À l'époque, aucun fichier ne centralise ce genre d'empreinte. Des prélèvements sont effectués sur la tête de lit, sur le legging utilisé pour l'étranglement. Sur ce vêtement, des traces d'ADN masculin moins nettes sont relevées. le frère de Katel qui a découvert le corps est le premier questionné, formellement mis hors de cause. Un témoignage retient l'attention, celui d'une voisine qui a vu le jour du crime, vers 10h30, 11h, la fille Béréouk discuter devant chez elle avec un homme, un inconnu qui pourrait être âgé d'environ 25 ans, discussion qui n'avait pas l'air agitée, peut-être la dernière personne avec qui la victime a dialogué avant d'être étranglée. Et on va voir par la suite que ce témoignage unique dans le dossier ne va pas être dépourvu d'intérêt. L'enquête va bien sûr s'étendre, se concentrer sur cette commune d'Auvers-sur-Oise qui va faire l'objet d'une campagne de test ADN. D'autres pistes vont être creusées. On en parle dans les prochains chapitres de l'heure du crime. On va s'arrêter sur cette scène de crime un peu inhabituelle, il faut bien le dire, car rien ne semble avoir été dérangé ou cassé dans la maison, pas de traces d'agression violente. Bonjour Timothée Boutry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat pour cette émission avec votre journal Le Parisien aujourd'hui en France. On a le sentiment sur cette scène de crime, Timothée, que Katel a été surprise, mais en tout cas tout a dû aller très vite parce que encore une fois, il n'y a pas de désordre dans cette maison.
Oui, il n'y a pas de traces d'effraction et il n'y a pas de vol apparent. Enfin, on n'est pas dans le cadre d'un cambriolage qui a mal tourné. Ça peut arriver, vous savez, où des gens viennent faire un fric-frac, ils tombent sur quelqu'un, ça se passe mal et voilà. Mais là, ce n'est pas le cas puisque pas de réfraction, pas de désordre, pas de vol. Donc, on est très vite sur une hypothèse criminelle. Potentiellement sexuelle, alors vous l'avez dit, ça a varié, là au final la dimension sexuelle a été retenue, mais elle, au départ l'enquête n'est pas ouverte.
Elle est pas évidente au début, hein, cette
non, dimension sexuelle. Non, elle est pas évidente, et peut-être même qu'elle sera contestée, mais c'est vrai que l'enquête initiale ne porte que sur le meurtre, et finalement le suspect est mis en accusation devant la cour d'assises pour meurtre précédé de viol. Mais voilà, vous l'avez bien expliqué dans votre présentation, ces traces de lubrifiant qui laisse imaginer qu'il y a peut-être eu un rapport sexuel protégé nécessairement, et donc voilà quelle en était la teneur. Aux yeux de la justice, il était donc forcé, et que voilà, on est sur l'hypothèse d'un acte sexuel et criminel concomitant. Mais c'est vrai qu'au départ c'est aussi cette question là qui intrigue, une scène de crime qui est évidente,
question qui est importante, hein, parce que
très importante,
ça fait partie d'un mobile,
bien sûr, elle sera largement débattu devant la cour d'assises,
bien sûr,
le moment venu. C'est essentiel et ça pourrait effectivement être un mobile.
Timothée Boutry, en dehors des traces d'étranglement, elles qui sont parfaitement visibles, le légiste il a aucun doute là-dessus, il voit très vite que c'est avec le legging d'ailleurs, donc c'est avec non pas un lien qui aurait été amené par quelqu'un, hein. C'est un vêtement qui a été trouvé sur place, un vêtement de la victime. Est-ce qu'il y a d'autres traces de coups ou de blessures?
Non, et après il y a juste des empreintes, vous l'avez dit, sur la tête de lit, qui ne sont pas les mêmes, voilà, mais c'est vrai qu'il y a même une espèce de mise en scène avec ce legging attaché par l'arrière. Enfin, c'est un lien un peu particulier aussi. Bon, voilà, c'est assez spécial, je pense, pour le petit frère, on imagine.
L'horreur.
L'horreur, ouais, que ça peut être de
découvrir
ça. Tant
plus que ça se fait en deux temps, il croit qu'elle dort finalement, sa sœur. Hein.
Oui, voilà, donc enfin, on peut imaginer le traumatisme. Et après, j'imagine que les gendarmes ont dû aussi travailler sur ce nœud, est-ce qu'il signifie quelque chose ou pas. Enfin, voilà, tout ça fait partie de... Chaque détail compte, hein, vous savez, dans ce genre d'enquête, mais c'est vrai que c'est une scène assez particulière.
Et c'est vrai que c'est le plus petit détail qui peut amener à la personne, au meurtrier. Bonjour maître Sylvain Cormier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes, vous, donc, avocat à Lyon, hein, je crois, c'est ça. Vous êtes l'avocat de Cyril E. Alors, Cyril E, on va en parler, évidemment, au fil de cette heure du crime. C'est un peu un fil rouge, puis ça va être le suspect numéro un. On va voir comment il va être découvert. Je voudrais, avant qu'on parle de Cyril E, on va y venir, maître Cormier, que vous nous disiez quelques mots sur cet ADN qui est déposé. Donc, il y a des traces d'ADN qui sont déposées sur le corps de la victime. Il y a également des traces, je crois, sur le legging qui a servi à étrangler. Est-ce que cet ADN est parfaitement détectable et détecté?
Alors, la question, elle est fondamentale. C'est comme ça que Cyril a été mis en liberté. C'est parce qu'on s'est aperçu que l'ADN de Cyril ne se trouvait que sous un prélèvement en curetage sous l'ongle de la victime. Sur le reste de son corps, il n'y a rien. Et sur le legging, c'est de la statistique. Il est en mélange avec quatre autres ADN. C'est compatible avec le sien, mais ça peut être l'ADN de plusieurs autres personnes. Mmh. Et ce qui est très étrange, c'est que il n'y a aucune trace de violence nulle part. C'est-à-dire ni de désordre dans le pavillon, mais ni sur le corps de Catel. Et dernier élément pour nous qui pose un problème fondamental, Cyril n'aurait laissé aucune trace de lui dans le pavillon. On ne le retrouve nulle part. Vous voyez,
Il n'y a pas d'empreinte, c'est ça que vous voulez dire.
Il n'y a aucune empreinte, il n'y a aucune trace d'ADN sur aucun objet. On a pris de l'ADN un peu partout, sur le couvre-lit, sur le dessus de lit, sur les portes, un peu partout, pour essayer de retrouver des traces de passage. Donc, c'est très surprenant ce résultat.
Mmh. Et encore une question, Maître Cormier, puis ensuite on viendra plus précisément à votre client dans la suite de l'heure du crime. Il y a cette voisine qui dit, et j'ai vu un homme à peu près 25 ans, ça peut cadrer avec l'âge qu'avait Sylvain à l'époque. Est-ce qu'il ressemble à votre client, j'ai envie de dire, cet homme aperçu par la voisine?
Alors, c'est difficile à dire, parce que nous, on arrive 27 ans après, hein, donc je suis imprudent sur ce genre de description, d'autant plus que ce témoignage avait plutôt mis en cause le facteur, parce que...
Oui, on va y venir au facteur. J'avance. Vous avancez un peu trop vite, mais c'est pas grave. On va y venir au facteur. Timothée Boutry, un mot quand même sur la victime, Catel Béréouk, c'est une jeune fille brillante, mais elle a des problèmes, là, est en pleine crise, non pas existentielle, elle a des problèmes physiques, des problèmes de santé.
Oui, vous l'avez bien expliqué, elle est brillante, oui, étudiante en hypocagne, comme vous l'avez expliqué, avec des problèmes plutôt d'ordre de santé mentale, si je puis dire, avec des épisodes d'anorexie, de boulimie, avec cet épisode de son petit ami qui aurait été tué, et c'était effectivement pas le cas. On se rend compte qu'elle s'invente aussi des personnages, en fait, et qu'elle écrit des textes signés d'une autre personne, et cette personne, en fait, c'est elle. Bon, voilà, ça traduit un certain mal-être, mais bon, comme d'autres adolescentes, comme ça peut être le cas pour d'autres adolescentes, voilà.
Ça n'a rien de très spectaculaire.
Mais évidemment, ça va intéresser les enquêteurs, vous l'avez dit, mais a priori, à ce stade, ça n'a aucun lien avec son homicide.
La petite ville d'Auvers-sur-Oise, épicentre du drame, va rester au centre de l'enquête. L'assassin habite-t-il ici ? Ou s'agit-il d'un tueur de passage ? Octobre 1996, un peu plus d'un an après le crime, le maire d'Auvers-sur-Oise, Jean-Pierre Becquet, est destinataire d'un courrier anonyme qui dénonce le facteur comme un possible suspect. Le cas de l'employé de la poste est regardé de très près par les gendarmes. Cet homme bien connu, apprécié à Auvers, a déposé du courrier chez les Béréouk le matin du meurtre. A-t-il croisé la fille de la maison ? Le fait est que Catel était encore vivante quand les plis ont été déposés. Elle a ouvert certaines enveloppes, fait intrigant, le facteur a ce jour-là modifié, sans raison, l'ordre de sa tournée. Il est longuement entendu, mais rien ne le relie au crime, ni empreinte, ni ADN. La lettre anonyme ne comporte aucune information, elle était seulement destinée à lui nuire. À l'appui de notre témoignage, les gendarmes vont vérifier une autre piste, celle d'un jeune homme qui se serait disputé avec Catel et l'aurait par la suite importuné. Les vérifications s'avèrent stériles, tout comme celles entreprises pendant des mois sur des profils dits sensibles, des marginaux, des personnes réputées violentes, des délinquants sexuels. Les enquêteurs s'accrochent à la piste locale. Presque deux ans après le crime, le parquet de Pontoise décide de lancer une vaste campagne de prélèvement ADN à Auvers-sur-Oise. Fait exceptionnel, tous les hommes de la commune, âgés de 25 à 35 ans, sont convoqués à la gendarmerie pour donner leur salive. Les convocations vont s'étaler sur plusieurs semaines dans un climat de suspicion de plus en plus lourd. On s'interroge, et si l'assassin de la jeune femme habitait juste à côté ? L'ADN de dizaines d'habitants est comparé aux cellules de peau inconnues retrouvées sous un ongle de la victime, mais aucune concordance établie. L'ADN ne matche pas. En ce début d'année 98, l'enquête Béréouk semble ainsi revenir à son point de départ. Elle va devoir être élargie bien au-delà de la petite ville. Il pourrait s'agir d'un crime de rôdeur ou d'un désaccès sexuel qui ce jour-là était à la recherche d'une proie. Des vérifications tellement fastidieuses que seul un coup de chance pourrait aider à faire aboutir. 2005, 10 ans après la mort violente de Katel Berehouk, les enquêteurs sont forcés d'admettre qu'aucune des pistes suivies n'a donné de résultats. Malgré l'intensité des investigations, le dossier n'avance plus. Le juge d'instruction délivre alors un non-lieu, décision qui plonge la famille et les proches de la jeune femme dans le désarroi. Tout le monde redoute que le dossier soit voué à rester un cold case. Pendant 5 ans, aucun fait nouveau, aucun témoignage. 2010, le nom du tueur en série, Michel Fourniret, surgit. Il a été arrêté 7 ans plus tôt en Belgique. Les investigations ont montré que ce criminel sexuel était un prédateur, pas uniquement cantonné dans la région des Ardennes, mais pouvant se déplacer dans la France entière. Quand Katel Berehouk a été tué, Fourniret était libre. Mais impossible pour les enquêteurs d'établir que la route du tueur en série est passée par Auvers-sur-Oise. Et voilà donc une enquête désespérante, on peut le dire comme ça, qui pendant 15 ans tourne en rond, malgré tous les indices qui ont été collectés. Il y a bien sûr cet ADN masculin retrouvé sur le corps de Katel et sur ses habits. Il y a également le témoignage de cette voisine qui a vu un homme discuter avec la victime, et ce très peu de temps avant sa mort. Maître Sylvain Cormier, vous êtes dans cette affaire l'avocat de Cyril E, qui va être le suspect principal et qui va bientôt être détecté. On va le voir dans les chapitres suivants de cette émission. Est-ce qu'on s'est pas un petit peu trop focalisé sur la piste locale? Je pense que ça, c'est une idée que vous avez depuis le début.
Oui, j'ai deux... L'enquête, pour être très clair avec vous, l'enquête des gendarmes, pour moi, est une bonne enquête. On voit qu'ils ont fait plein de vérifications. Dans les moindres détails, c'est comme ça qu'on retrouve les autres personnalités. Par exemple, de Katel, c'était des lettres qui étaient rédigées à ces jeunes femmes, à des adresses qui n'existaient pas. Les vérifications ont été faites. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose là-dessous. C'est comme ça qu'on a trouvé les choses. Mais effectivement, c'est un peu bloqué, sur la piste locale, mais peut-être surtout sur le dieu ADN. C'est les débuts.
C'est les débuts, oui, bien sûr.
Et je crois qu'on a surestimé peut-être à l'époque disons l'intérêt de cette technique, et qu'on a pu abandonner des pistes faute de résultats concordants, ou au contraire délaisser certaines autres simplement en se focalisant sur l'ADN. Et ça me semble dommageable, parce qu'il y avait des pistes intéressantes qui avaient été soulevées.
Bah justement, dites-nous, résumez-nous lesquelles, Maître Cormier. Vous parliez tout à l'heure du facteur. Elle a été creusée, cette piste, avec le livre.
Oui, mais on s'arrête, si vous voulez. En fait, il y a au moins 4-5 pistes parallèles qui ont été étudiées, qui sont très sérieuses. Mais quand l'enquête montre que l'ADN ne collerait pas, on s'arrête. Et je pense que c'était un peu dangereux, surtout au tout début de cette technique, où des erreurs ont pu être faites, enfin, voilà. Et peut-être qu'on a surestimé à l'époque la technique ADN.
La toute puissance scientifique. Oui. Timothée Boutry, journaliste au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Et on est aujourd'hui dans cette heure du crime en partenariat avec votre journal Le Parisien aujourd'hui en France. Il y a cette campagne de prélèvement ADN. C'est une première en France. Il y aura Pleine Fougère ensuite avec le juge Van Ruymbeek. Mais là, c'est un village quasiment, enfin les hommes du village qui passent un petit peu au test ADN. Pourquoi ça ne matche pas à l'époque? Pourquoi on ne trouve pas aucune correspondance?
Bah, peut-être tout simplement parce qu'il n'y a aucune correspondance à trouver. Non, mais...
Il n'y a pas de fichier, c'est ça?
Bah, à l'époque, il y a le début, il y a le FNAEG, il faut qu'il soit alimenté, enfin tout ça. Et puis c'est un fichier qui s'alimente encore aujourd'hui.
On est au balbutiement, c'est ça que je veux dire.
Oui, c'est ça, voilà. Mais après, vous l'avez dit, Pleine Fougère, sur l'affaire du petit Jonathan aussi, il y a eu des prélèvements. Donc ça peut arriver, quand on est un peu bloqué, qu'on fasse comme ça une campagne élargie, en se disant, si c'est local, ça va matcher. Et voilà, mais là ça n'a pas fonctionné. Sans doute parce que effectivement aucune personne qui a été testée ne correspondait.
La question, c'est de dire si ça dépassait le cadre effectivement de cette petite ville, et qu'on tombait au niveau national ensuite.
Après, heureusement que nous sommes pas tous fichés et que notre ADN n'est pas entièrement fiché, donc ça c'est quand même plutôt une satisfaction. Et c'est vrai que si on bloque et si on n'est pas sur quelqu'un qui a déjà commis quelque chose et qui est déjà dans un fichier, alors effectivement à l'époque on était au début, mais c'est vrai que ça peut aussi être une aide de faire faire un ciblage si on est sur cette piste locale.
Oui, on élimine déjà des pistes possibles. Voilà. Alors, parmi les pistes, et sûrement... Et
vous savez, juste, il y a eu aussi, je me permets, mais dans l'affaire du Grêlé, qui a été élucidé récemment...
Tueur en série.
La juge d'instruction avait décidé de faire une campagne ciblée, fruit de son enquête, sur des gendarmes, et en gros, le Grêlé, maintenant, c'est que celui, François Vérove, s'est suicidé, sachant parce qu'il allait être démasqué, puisqu'il avait été convoqué pour une campagne, pour un prélèvement. Voilà, donc les prélèvements, soit on fait large parce qu'on se dit on ne sait pas grand-chose, voilà, soit on fait quelque chose de ciblé.
On cible de plus en plus aujourd'hui, mais la technique a beaucoup évolué, et les moyens aussi sont beaucoup plus conséquents qu'à cette époque, il faut le rappeler, c'est le début. Alors il y a ces pistes qu'évoquait Maître Cormier, il y a celle de Fourniret. Fourniret, on va rien trouver, on va essayer de trouver.
Oui, mais après Fourniret, c'est un peu dans toutes les affaires similaires de jeunes filles qui ont été tuées, où il y a une connotation potentiellement sexuelle dans le quart nord-est de la France, si je puis dire, on va imaginer Fourniret. C'est un peu logique presque. Voilà, on l'avait imaginé sur Estelle Mouzin. Finalement, ça s'avère que c'était vraisemblablement lui, puisque il est décédé. Mais en tout cas, Monique Olivier est mise en examen. Mais c'est pas Fourniret tout le temps non plus. Voilà, mais non, c'est logique en fait.
Il y a quelque chose d'intéressant. C'est logique, et puis il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cette année-là, c'est la période blanche de Fourniret, c'est-à-dire on pense qu'il n'a jamais rien fait, et depuis des années, on recherche désespérément le moment où il aurait pu agir, donc ça rentrait effectivement dans cette lucarne.
Oui, ce serait une erreur de pas explorer cette piste, évidemment.
Est-ce qu'il y a d'autres cas qui ont été explorés, d'autres pistes? Le facteur, par exemple, oui, ça a été fermé.
Oui, le facteur, ce camarade, ce petit ami est conduit, donc on s'est intéressé à lui aussi. Un peu tous les gens qui potentiellement pouvaient passer dans le village à ce moment-là, ou qui ont connu Catel à un moment donné, et à chaque fois ils vont être, comme l'a dit Maître Cormier, discriminés au regard de l'ADN.
Le non-lieu 2005, c'est dévastateur pour la famille, hein.
Naturellement, ça veut donc dire qu'à ce stade, la justice ne peut pas fournir de réponse, et on imagine ce que ça représente pour des parties civiles, évidemment.
L'enquête sur le meurtre d'Auvers-sur-Oise a tout d'une course de lenteur jusqu'à ce que le dossier connaisse un coup de théâtre.
On parle de dossiers d'homicide, de meurtre, de viol, sur lequel, il y a 15 ans, 20 ans, on n'a pas réussi à trouver l'auteur de ces faits. On a recherché ce dossier aux archives, on l'a ressorti, on l'a transmis aux enquêteurs en disant, voilà, retravaillez dessus, il y a des indices, il y a des preuves, il y a des scellés encore.
Début d'année 2017, alors que le dossier Catel-Béréouk est officiellement clos depuis 12 ans, des magistrats du tribunal de Pontoise lancent un projet cold case. Bien avant la création d'un pôle spécialisé, le parquet local émet l'idée de pouvoir rouvrir et retravailler sur des affaires classées. Il s'agit de profiter des dernières avancées en matière de police scientifique et d'ADN. Une greffière du tribunal, qui se souvient parfaitement de l'enquête Béréouk, propose que ce dossier soit réexaminé. De nouvelles expertises ADN sont alors lancées et le résultat ne se fait pas attendre. Cette fois, les traces matchent. L'ADN est celui d'un certain Cyril E, âgé de 47 ans, 24 au moment des faits. L'individu apparaît au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, car il a été condamné à deux reprises. Une fois pour violence et agression sexuelle sur conjoint, le 17 juin 2011 à Melun. C'est à cette occasion qu'il aurait été inscrit au FNAEG. Mardi 3 juillet 2018, Cyril E, marié, père de famille, travaillant comme courtier en assurance, est interpellé chez lui, à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Son entourage tombe des nues. Depuis ses condamnations, l'homme n'a plus jamais fait parler de lui et mène une vie tranquille. Il dément avoir agressé cette jeune femme en 1995. Il ignore, vu le temps écoulé, où il se trouvait ce 11 mai 95, jour du crime. Il est possible, cependant, qu'il soit passé par Auvers-sur-Oise. À l'époque, il vivait de petits boulots. Il démarchait les particuliers pour leur vendre des lithographies, des petits tableaux bon marché. On l'informe de la trace ADN sous l'ongle de la victime. Il ne se souvient d'aucune agression, explique qu'il a peut-être essayé de vendre une lithographie à la jeune femme et qu'elle a peut-être griffé involontairement. Des versions extravagantes et alambiquées soutient le parquet de Pontoise. Le suspect nie les faits. Il est écroué. Et on va en venir plus précisément dans le chapitre suivant sur les expertises ADN qui ont permis d'identifier le suspect. Timothée Boutry, journaliste au quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, avec qui nous sommes aujourd'hui en partenariat. On est là en 2018, 23 ans après la mort de Katel Berreouk, il faut bien le préciser. C'est un incroyable rebondissement et c'est presque un coup de hasard, j'ai envie de dire.
Alors, rebondissement, oui, hasard, à partir du moment où, finalement, on a une empreinte, vous savez, elle tourne.
Non, je disais hasard dans le fait que cette greffière qui va rechercher le dossier et le met sur le haut de la pile pour qu'il soit étudié, on aurait pu encore entendre quelques années.
Oui, peut-être que, quand bien même il y a ce projet Cold Case qui avait été mis en place par le parquet de Pontoise, peut-être que le dossier Berreouk n'aurait pas été ressorti de l'armoire aussi vite. Et c'est vrai que c'est grâce à la clairvoyance, au souvenir de cette greffière, que voilà, il est exhumé, il est ressorti, et qu'on fait retourner cet ADN et qu'on voit s'il y a quelque chose qu'on obtient. Mais c'est vrai que la mémoire, ça compte, la mémoire d'une enquête, la mémoire des enquêteurs.
Et, oui.
Et dans les services, vous savez, il y a des j'extrapole un peu, mais il y a des affaires comme ça, qui se suivent, qui se transmettent d'enquêteur en enquêteur. Il y a des services, il y a des gens qui restent très longtemps sur un dossier, mais à un moment ils partent, mais et parfois ils en parlent à d'autres et tout ça. Donc là on a cette idée de cette permanence, de cette greffière qui a pu s'en souvenir, et c'est ce qui fait que on a rouvert le dossier et finalement ça a matché. Alors c'est un terme anglo-saxon, mais il y a une correspondance entre la trace tout longue de Katel Berreouk et le profil génétique de ce Cyril.
C'est un coup de théâtre quand même.
Ah bah évidemment, oui, bah totalement. Cette affaire Berreouk, on avait parlé à l'époque. Alors évidemment, pour ses proches, c'est présent chaque jour, hein, mais je veux dire pour le grand public, pour les médias, c'était un petit peu oublié. Voilà, c'était dans la mémoire traumatique de cette famille, du village de Vers-sur-Oise, vous l'avez dit, de l'ancien maire, puisque le papa de Katel Berreouk était adjoint. Donc tout ça, évidemment, ce souvenir-là, il existe, mais ça faisait partie de la longue liste des crimes impunis, et c'est vrai que ça a été une énorme surprise pour nous tous à ce moment-là d'apprendre ça, oui.
Sylvain Cormier, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat de Cyril E. Bah, tout simplement, c'est lui le suspect, du coup, le suspect numéro un, avec cette trace ADN. Qui est-il, votre client? Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Ah oui, je peux vous le présenter. C'est quelqu'un qui a une vie de famille parfaitement établie, il est courtier en assurance. Et lui, lorsqu'on vient le chercher pour lui dire, eh bien, on a retrouvé votre ADN, et donc vous êtes le suspect numéro un dans ce dossier, c'est quelqu'un qui a vu le monde s'effacer sous ses pieds, quoi.
Mais il nie pas s'être trouvé à Auvers, hein. Il dit qu'il peut être passé dans ce coin pour vendre ses lithographies.
Alors, c'est particulier. Il n'en a aucun souvenir. C'est très important parce que c'est un peu le piège du questionnement sur l'ADN. On somme finalement un suspect de s'expliquer. Il y a votre ADN, monsieur. Trouvez une explication. Et il en cherche plein. Il n'a aucun souvenir. Il dit, bon, j'ai été dans des lithographies. Peut-être que je suis passé par là. Peut-être que, vous voyez. Et c'est le problème de tous les gens de bonne foi qui sont interrogés, à qui nous sommes de trouver une explication. Ils referment un petit peu le piège sur eux-mêmes. Mmh. Parce qu'après, on leur dit, eh ben voilà, vous étiez là et c'est corroboré par l'ADN. Mais en fait, ça s'est fait à l'envers. On leur dit, il y a votre ADN, il faut trouver une explication. Et parfois, il n'y en a pas.
Et juste un mot, le procureur de Pontoise lui dit, ce sont des propos alambiqués. Il cherche des explications, mais il raconte un peu n'importe quoi.
Mettons-nous à la place de quelqu'un à qui on vient de dire qu'est-ce que vous viez le 11 mai 1995, plus de 20 ans après les faits.
Maître Sylvain Cormier va contester les expertises ADN. En aucun cas, il s'agit d'une preuve formelle, va-t-il dire. 22 novembre 2019, après 18 mois de détention, le courtier en assurance, Cyril E., est remis en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Son avocat, Maître Cormier, s'est battu pour dénoncer une enquête exclusivement centrée sur l'ADN. « Je pense que des erreurs ont été commises dans le recueil des indices », soutient Maître Cormier, indiquant qu'il est anormal que l'ADN de la victime ne figure pas sur les cellules prélevées sous ses ongles. L'avocat conteste également les traces génétiques qui auraient été relevées sur le pull et le legging de la victime. La libération de Cyril E. pousse le père de Katel, Alain Berreouk, à sortir du silence qu'il observait depuis des années. Il regrette de ne pas avoir été prévenu de cette libération. « J'aimerais savoir ce qui s'est passé. La dernière fois que j'ai vu un magistrat, on m'a affirmé que cet homme ne serait jamais remis en liberté. » Vu les éléments du dossier, 3 ou 4 mois plus tard, j'apprends qu'il est dehors. et je ne sais rien », déplore-t-il dans une interview au journal Le Parisien. « On se fiche de nous », poursuit le père de la victime. « Il n'a pas pu nier qu'il a vu ma fille le jour de sa mort. Elle avait sa peau sous ses ongles. » Maître Juliette Demaldan, avocate de la famille, confirme « Pour les parents et pour le frère de Catel, cette décision est incompréhensible et insupportable. » Timothée Boutry, on vous retrouve dans cette heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, journaliste au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Alors il y a cette remise en liberté, quelques mois après l'incarcération du suspect numéro 1, Cyril E. Ça ne veut pas dire que c'est l'arrêt des poursuites.
Non, non, bien sûr, on est vraiment dans le cadre de la procédure pénale. Comme vous le savez, la détention provisoire, c'est l'exception, la règle, c'est la liberté. Et alors c'est vrai que dans les mises en cause criminelles, il y a souvent une détention provisoire et bon nombre d'accusés comparaissent détenus dans la cour d'assises. Mais comme vous le savez, il y a des délais. On peut faire à tout moment des demandes de remise en liberté. Il y a aussi des délais légaux au bout desquels le juge d'instruction doit renouveler la détention provisoire et à nouveau saisir le juge des libertés de la détention. Donc c'est très contrôlé, la détention provisoire, et Maître Cormier, l'avocat de Cyril E, a bataillé, a fait son travail, et il a obtenu cette remise en liberté, alors qu'il procéduralement ça ne change pas grand chose puisque il reste mis en examen. Enfin, à l'époque il était en examen, aujourd'hui c'est ce qu'on révèle dans l'article, il est mis en accusation. Ça veut dire que le juge d'instruction estime qu'il y a des indices graves et concordants et qu'il est passible d'une audience devant la cour d'assises. Mais son statut carcéral, si je puis dire, est totalement indépendant des preuves ou des éléments à charge ou à décharge qui sont retenus contre
lui. Ça ne fragilise pas le dossier.
Alors, non.
On peut le voir comme ça.
On peut le voir comme ça. Après, il faut juste le voir comme une application du code de procédure pénale, en fait. Alors moi, je sais pas, connais pas toutes les motivations. Je sais pas si c'est Maître Cormier sera mieux.
On va le demander.
La chambre de l'instruction ou le juge de liberté ou la juge d'instruction qui l'a remis en liberté. Enfin, peu importe. Mais dans les critères, il y a le risque de réitération, le trouble à l'ordre public, la pression sur les témoins. Et c'est vrai que le temps fait que les années ont passé. Et il avait été interpellé dans la foulée de cet homicide, il n'aurait vraisemblablement pas été remis en liberté non plus. On peut l'imaginer, hein, que ce temps-là a joué dans les critères qui ont procédé à sa remise en liberté.
Très certainement. Maître Cormier, ben justement, vous êtes vous l'avocat de Cyril E et vous êtes en ligne dans l'ère du crime. Qu'est-ce que vous avez fait valoir comme argument pour parvenir à faire libérer votre client ? L'ADN, les prélèvements auraient été défectueux, vous l'avez sous-entendu à un moment donné ?
Ah, je l'ai pas sous-entendu, je l'ai écrit noir sur blanc. Je me suis aperçu de plusieurs erreurs, en vérité, et des erreurs que j'avais rencontrées sur certains autres dossiers, notamment un dossier que vous aviez eu en main, avec le dossier des deux agents immobiliers qui avaient été condamnés dans un premier temps par erreur. En fait, il faut être très clair. L'ADN, dans cette affaire, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des erreurs. Il y a déjà des incohérences manifestes. Comment aurait fait Cyril pour laisser une empreinte sur son empreinte ADN, son ADN sur l'ongle de la victime, sans laisser d'autres traces nulle part ailleurs dans la maison, dans le décor? Ça paraît absolument improbable. Comment se fait-il que sur ce prélèvement où on a clurté l'ongle de la victime, il n'y ait pas l'ADN de la victime? Ensuite, sur les vêtements, c'est des statistiques et l'expert s'était trompé. Il avait fait des calculs statistiques faux. Et donc, le mélange était... Il y avait au moins 4 ADN présents dans ce mélange. Lui, il faisait ses calculs sur 3 personnes. Donc, je dis, pour être très clair, l'ADN, c'est comme de la nitroglycérine. C'est à manier avec énormément de précautions. On peut très vite se tromper et vraiment il faut être très vigilant. Et c'est au nom, à mon sens, au bénéfice du doute qui a été libéré, au risque d'erreur qui a été libéré, Cyril.
La famille a peur de voir s'éloigner la possibilité d'un procès, éventualité qui reste pourtant d'actualité. La famille de Catel Béréouk s'accroche à la possibilité d'un prochain procès du suspect numéro 1, Cyril E. En 2020, leur avocate estimait déjà que tous les ingrédients étaient bel et bien réunis pour une comparution devant la cour d'assises. Sylvain Cormier, le défenseur de Cyril E, demeure sur une position diamétralement opposée. Il a ainsi multiplié les demandes de contre-expertise, notamment sur l'ADN. Il faut un procès Plus de 20 ans d'attente, c'est trop long, c'est une souffrance pour tous ceux qui ont connu Katel, indiquait récemment une proche de la disparue. La décision de renvoyer ou non aux assises le suspect numéro 1 est le dernier suspense du dossier Béréouk. Et oui, l'ultime suspense, et on vous retrouve dans cette heure du crime, Timothée Boutry, dans le studio de l'heure du crime. C'est vous qui révélez dans votre journal Le Parisien aujourd'hui en France, avec qui on est en partenariat aujourd'hui dans cette heure du crime. C'est vous qui révélez que il est mis en accusation. Alors, il faut nous dire en quelques mots ce que ça signifie. Une ordonnance de mise en accusation, ça veut dire que c'est la porte ouverte à un procès aux assises, c'est ça?
Oui, exactement. Ça veut dire que le juge d'instruction, il avait déjà indiqué qu'il avait terminé ses investigations. À partir de ce moment-là, le parquet prend ses réquisitions, c'est-à-dire que l'accusation dit, en l'occurrence, nous estimons que ce suspect doit comparaître devant la cour d'assises, la défense fait des observations également, et à l'issue, le juge d'instruction décide, rédige une ordonnance, très clairement, il écrit, il fait le résumé des faits, et dit voilà pourquoi moi je pense qu'il y a suffisamment d'indices pour que ce monsieur doive comparaître devant une cour d'assises, et il qualifie les faits pour lesquels il doit comparaître. En l'occurrence, il y a le viol suivi plutôt le meurtre précédé de viol, et donc... ça veut dire qu'à partir du moment-là, la cour d'assises est saisie et qu'à un moment donné, il va comparaître devant des magistrats professionnels et des jurés populaires. Avec cette interrogation que, comme on l'a indiqué, la défense de Cyril Leu, Maître Cormier en l'occurrence, a fait appel. C'est-à-dire qu'on peut faire appel d'une ordonnance de mise en accusation et auquel cas, c'est la chambre de l'instruction, ça s'appelle, au niveau de la cour d'appel
qui va trancher.
Ouais, donc, il y a une espèce un nouveau débat, en fait, où chacun, là, on est dans le contradictoire toujours, le parquet général va prendre ses réquisitions de confirmation de mise en accusation, la défense va plaider et la chambre de l'instruction va rédiger une nouvelle ordonnance pour saisir ou non la cour d'assises.
Ça peut durer quelques mois, évidemment. Maître Sylvain Cormier, avocat de Cyril Leu, vous êtes justement en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Où est-ce qu'on en est, de manière juridique, dans ce dossier? Vous avez fait appel, c'est ça?
Voilà, on est exactement dans la situation décrite par Timothée Boutry. Il y a une accusation formelle qui est présentée par le juge d'instruction et qui dit « je vous renvoie vous faire juger aux assises ». Et nous avons contesté cette décision. Et c'est aujourd'hui la chambre d'instruction de Versailles qui va devoir rendre trancher ce litige, en quelque sorte, et départager les positions.
S'il y a procès, je dis bien s'il y a procès, parce que d'ici là, de l'eau va couler sous les ponts et on verra ce que donne la suite, mais... tout va se jouer un petit peu sur les expertises ADN, les expertises scientifiques. C'est vraiment la pierre d'achoppement de ce dossier.
Il faut être très prudent parce que, évidemment, c'est un combat important que nous menons sur les expertises et sur les résultats tels qu'ils ont pu être présentés. Mais il s'avère parfois que des détails insignifiants, a priori négligés, peuvent s'avérer... absolument essentiel en vérité. Donc je compte faire très attention à mon tour et ne pas me focaliser que sur l'ADN.
Voilà, en fait. Et juste encore un mot, Maître Cormier, dans quel état d'esprit est votre client Cyril Leu? Est-ce qu'il redoute ce procès qui peut s'annoncer?
C'est plus fort que ça. C'est un homme qui est plus que bouleversé, qui est catastrophé par simplement d'avoir été désigné dans cette affaire. Il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas comment. Enfin, bien sûr, il a au final compris comment on en arrivait là. Mais ça reste pour lui quelque chose de complètement sidérant et d'extrêmement brutal.
Timothée Boutry, on va terminer cette émission avec vous, journaliste au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Cette famille Béréouk, elle a toujours été très discrète. Ils ont déménagé, je crois, après le drame. C'est une histoire qui a brisé complètement cette famille. Alors, on le saura moins.
Oui, évidemment, vous imaginez la perte d'une fille de 19 ans dans des circonstances comme celle-ci. Et en plus, avec pendant des années et des années, l'ignorance sur les circonstances, sur l'auteur, ce sentiment d'injustice. Voilà, vous pouvez imaginer ce que ça peut procurer comme sentiment. Et c'est vrai, j'en parlais avec leur avocate, la réouverture de dossier et surtout la mise en cause de Cyril Leu, son interpellation, ça fait naître un profond espoir. Alors ça a rouvert des blessures parce que, évidemment, le temps, on n'oublie pas, mais le temps fait son œuvre. Mais évidemment, Mais là, voilà, bah, il y a un nouvel espoir, cette histoire qui rejaillit, et donc pour eux, à ce moment-là, bon, bah, forcément, on tient le bon, il y a l'ADN, il va être jugé, on va avoir les réponses, on aura un procès, ça ne nous ramènera pas notre fille, mais on aura peut-être des explications, la justice passera, et voilà. Mais c'est vrai que là, le temps passe, c'est douloureux pour eux, et effectivement, ils sont toujours dans l'attente de ce procès. Vous l'avez dit, ils ont été extrêmement dignes, extrêmement mesurés depuis le départ de cette affaire. Ouais.
Merci beaucoup Timothée Boutry et maître Sylvain Cormier d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime, émission en partenariat avec le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.